sur quoi s'appuyer pour être accepté par les autres. Pour tenter d'être accepté pour un emploi, on nous demande d'avoir d'envoyer un CV et une lettre de motivation. Dans le CV, on montre ses diplômes et son expérience professionnelle. Alors, je vais vous lire un CV que je trouve plutôt pas mal. C'est pas moi. Je vous passe les dates. Diplôme en sciences politiques de l'Université de Columbia, diplôme de droit à Harvard, avocat associé, avocat pour le Sénat des États-Unis, président des États-Unis. Un autre, sénateur des États-Unis, vice-président des États-Unis, président des États-Unis. Alors, un autre peut-être plus proche de nous. Baccalauréat mention très bien, prépa scientifique aux grandes écoles à Henri IV et école polytechnique. Un autre, peut-être que certains d'entre vous, ce sera celui de certains d'entre vous, licence en maths, master en maths, CAPES en maths, agrég en maths et doctorat en maths. Dans une autre vie, j'aurais pu peut-être faire ça, je ne sais pas. Et sur quoi s'appuyons-nous pour être acceptés par Dieu ? Quel CV spirituel lui donnerait-on ? Est-ce qu'on mettrait « né dans une famille chrétienne », « allant au culte presque tous les dimanches », « lis ma Bible assez régulièrement », « bon chef de famille », etc., etc. Pour être accepté par Dieu, sur quel CV est-ce qu'on va s'appuyer ? Est-ce que c'est sur un CV religieux ? Voici un CV religieux de quelqu'un que vous connaissez bien. Je ne vous dis pas tout de suite son nom, vous allez sûrement deviner qui c'est. Circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. Waouh, c'est impressionnant comme CV. Alors vous l'avez sûrement reconnu, c'est celui de Paul, l'apôtre. Mais on aimerait bien lire son CV dans son contexte. Alors, je vous invite donc à prendre vos Bibles dans Philippiens chapitre 3, versets 1 à 9. Et j'afficherai aussi les textes pour voir pourquoi est-ce que Paul cite un tel CV et ce qu'il en pense. Nous allons voir aujourd'hui les versets 1 à 9. Alors, je vais vous lire le texte. Ça s'affiche aussi. « Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à bien plus forte raison moi. Circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des ordures, afin de gagner Christ. » Le prochain slide. Si tu peux passer le prochain slide. Ouais. Voilà, très bon. C'est bon, je crois que j'ai de nouveau la main. Non. Tu peux remettre le verset 9, je suis désolé. « Et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. » Paul écrit ce passage pour mettre en garde l'église de Philippe contre un danger. Verset 2. Je ne sais pas si tu peux. Attends, ouais. Verset 2. Merci. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Il y avait dans l'Église des faux enseignants d'origine juive qui exigeaient que les chrétiens d'origine non juive se fassent circoncire, qu'ils obéissent à des rites de la loi de Moïse et de la tradition juive. Ils pensaient que c'est comme cela qu'ils pourront vraiment être justes devant Dieu. C'est bien que vous ayez cru en Jésus. Maintenant, si vous voulez vraiment plaire complètement à Dieu, il faut vous faire circoncire. Ces hommes-là se fiaient dans leur propre justice, dans la circoncision, dans le respect de la loi et de la tradition juive, pour être juste devant Dieu, et pas dans le sacrifice de Jésus-Christ seul. Paul met sévèrement en garde les Philippiens contre ces hommes-là, pour insister sur le danger, il répète trois fois « Prenez garde, prenez garde, prenez garde ». Les termes qu'ils emploient sont forts. Chien, mauvais ouvrier, faux circoncis. Et ça révèle la gravité du danger. Pour nous, contre quoi nous met-il en garde? C'est ce que nous allons voir dans la suite du passage. Versets 3 à 6. Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison moi. Circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale irréprochable. Au verset 4, mettre sa confiance dans la chair, c'est mettre sa confiance dans ce qu'on a, ce qu'on est et ce qu'on fait pour être juste devant Dieu. Paul montre qu'il pourrait mettre sa confiance dans ce qu'il fait et ce qu'il est. Beaucoup plus que ces faux enseignants qui se confient dans la chair. Il nous présente son CV, qui est hors du commun aux yeux des Juifs. Il montre d'abord quatre choses qu'il a reçues, puis trois choses qu'il a accomplies lui-même. On voit que ça monte en crescendo. Des choses qui sont de plus en plus difficiles à avoir. Admirez le CV. Tout d'abord, la première chose qu'il a reçue, circoncis le huitième jour. Exactement comme l'indique la loi. C'est un signe qui marque l'intégration de l'enfant dans le peuple d'Israël. Ensuite, de la race d'Israël. Il ne s'est pas converti au judaïsme tardivement dans sa vie. Il n'est pas un prosélyte, mais il est du peuple d'Israël de naissance. De la tribu de Benjamin. Non seulement il est du peuple d'Israël, mais en plus il est de la tribu de Benjamin. Une des seules tribus de Juda qui est restée fidèle à la dynastie du roi David. En plus, Benjamin est le seul fils d'Israël qui est né dans la terre promise. Quel bel héritage il a reçu. Et ce n'est pas fini. Il est aussi hébreu, né d'hébreu. Il a un pur sang hébreu. Pas de sang païen, ni prosélyte, ni samaritain, ni autre. Ses parents, même s'ils habitent dans une ville païenne à Tars, ont tenu ferme face à l'influence énorme de la culture grecque et des religions païennes. Ils ont conservé fidèlement la tradition et la langue hébraïque. Remarquable. Il a un héritage qui fait envie à beaucoup de juifs. Et nous, qu'est-ce qu'on mettrait dans notre CV spirituel à présenter devant Dieu dans la catégorie héritage? Des choses qu'on a reçues. Né entre deux pages de Bible, je suis tombé dedans quand j'étais petit, peut-être enfant de chrétien, même de chrétien engagé, enfant de missionnaire, d'ancien, de pasteur, etc. J'ai grandi dans telle ou telle église, j'ai reçu tel ou tel don. Dans votre CV spirituel, dans le mien, qu'est-ce qu'on mettrait dans la colonne héritage de ce qu'on a reçu? Je vous laisse 15 secondes de réflexion pour réfléchir. Qu'est-ce que chacun de vous a reçu qu'on pourrait mettre dans ce CV spirituel? Je continue. Vous pourrez continuer aussi la réflexion un peu plus tard. Le CV de Paul est déjà impressionnant, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi pas mal de choses qu'il a faites lui-même dont il peut se vanter. Verset 6. Quant à la loi, pharisien. Il est pharisien, faisant partie du groupe le plus fondamentaliste des Juifs, reconnu par tout le peuple pour leur fidélité à la loi de Moïse. Ils étaient extrêmement stricts dans leur application de la loi et de la tradition juive, en rajoutant même des lois en plus pour être sûr de ne pas transgresser la loi. Paul a même été instruit à Jérusalem par un grand maître juif, Gamaliel. Ensuite, quant au zèle, persécuteur de l'Église. Aux yeux des Juifs, le zèle était une forme les plus élevées des vertus religieuses. Son zèle ne s'arrêta pas simplement à bien respecter le judaïsme, il allait jusqu'à détester ce qui menaçait le judaïsme, tellement il était zélé. Il a été prêt à aller même jusque dans les villes étrangères, au loin, pour mettre en prison les chrétiens. Il a prouvé même quand on les faisait mourir. Si ce n'est pas du zèle, ça. Il a un palmarès personnel impressionnant. Et pour finir en beauté, quant à la justice légale, irréprochable. Paul suivait scrupuleusement ce que la loi demandait, même dans les moindres détails. Dans tout cela, il monte en crescendo dans son palmarès. Ce sont des choses de plus en plus difficiles à avoir. À l'époque, presque personne ne pouvait atteindre un tel palmarès juif. Le profil de Paul est très, très impressionnant. C'est un peu le juif parfait, entre guillemets, de l'époque. Il aurait de quoi se glorifier par rapport aux standards juifs, et pas qu'un peu. Pour nous, qu'est-ce qu'on mettrait dans notre CV spirituel, dans la catégorie des choses qu'on a faites nous-mêmes? Est-ce que ce serait « je vais au culte presque tout le dimanche, je suis toujours à l'heure au culte, je suis membre de l'église baptiste de Clermont, je lis ma Bible et je prie régulièrement, je participe aux réunions de l'église, aux groupes de maison, aux groupes de jeunes, etc. J'ai un service ou une responsabilité dans l'église, auprès des enfants, des jeunes, le ménage, la sono, la vidéoprojection, je prêche, je préside, je suis dans l'équipe musicale, je suis ancien, diacre, dans le conseil, etc. Est-ce que ça pourrait être « je suis baptisé », « je suis engagé au GBU, au feu, au flambeau » Est-ce que ça pourrait être « Dieu s'est servi de moi pour encourager les autres, les aider, pour aider quelqu'un à croire » Est-ce que ça pourrait être « je n'ai jamais tué, ni trompé mon conjoint, je ne me suis jamais drogué, jamais fait de grandes bêtises que mes amis ont faites » Est-ce que ça pourrait être « je m'engage dans l'action sociale » ou « je suis un bon chrétien, j'invite des amis, etc. » Pour toi, pour vous, pour moi, quel serait ton CV spirituel que tu donnerais à Dieu? Que mettrais-tu dans la catégorie des accomplissements, de ce que tu as fait pour donner à Dieu? Je vous laisse quelques secondes pour noter dans vos têtes tout ce qu'on aurait fait pour Dieu. Je laisserai continuer la réflexion aussi plus tard pour cette catégorie, ce qu'on a fait. Paul nous a montré qu'il pourrait se confier dans la chair, c'est-à-dire dans tout ce qu'il a reçu, ce qu'il est et ce qu'il a fait, pour être juste aux yeux de Dieu. Surtout avec un CV aussi impressionnant. Il pourrait le faire aussi bien que les faux enseignants, et bien plus que ces faux enseignants qui disent aux chrétiens d'origine païenne de se faire circoncire pour être juste devant Dieu. Mais dans le verset 3, il dit « Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. » Il précise qu'il ne met pas sa confiance dans la chair. Il ne met pas sa confiance dans le CV religieux qu'on vient de lire pour être juste devant Dieu, alors qu'il pourrait le faire. Mais il se glorifie en Jésus-Christ. Pour être accepté par Dieu, sur quel CV s'appuyer? Pas sur un CV religieux. Il ne met pas sa confiance dans tout cela. Alors que fait-il de tout cela alors? C'est ce que nous allons voir dans les versets 7 à 9. Dans la première partie, Paul nous a montré qu'il aurait pu s'appuyer sur son CV impressionnant, tout ce qu'il a reçu, ce qu'il est, ce qu'il a fait. Mais il dit qu'il ne s'appuie pas sur son CV religieux pour être accepté par Dieu, pour se présenter devant Dieu. Pour être accepté par Dieu, sur quel CV s'appuyer? Première partie, pas sur un CV religieux. Dans la deuxième partie, nous allons découvrir ce sur quoi il s'appuie. Verset 7. « Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. » Ce qui était pour moi un gain désigne entre autres toutes ces fiertés qu'on vient de voir dans les versets 5 et 6 et qu'il considérait comme des avantages pour paraître juste devant Dieu. Tout cela, il les regarde comme une perte. Gain et perte sont des mots qu'il emprunte au vocabulaire de la comptabilité. Alors qu'avant, il pensait que ces choses étaient dans la colonne des gains, maintenant, il les considère comme dans la colonne des pertes. Le mot « perte » ne se retrouve qu'une autre fois dans le Nouveau Testament, dans Actes 27. Paul est prisonnier, il est sur un bateau en direction de l'Italie. Ils sont pris dans une énorme tempête. Imaginez, leur vie est en grand danger, et une énorme tempête qui est là. La cargaison qu'avait le bateau, cette cargaison qui était chère et qui était pour un gain, aurait été une perte pour eux s'ils l'avaient gardée. Ils ont donc dû jeter par-dessus bord toute cette cargaison afin de rester en vie. Autrement dit, ils ont dû considérer les gains comme une perte pour gagner la vie. De même, Paul a dû considérer ces choses de son CV spirituel qui étaient pour lui un gain, son super CV religieux, comme une perte. Il a dû les jeter à cause du Christ. Sur le chemin de Damas, quand Jésus s'est révélé à lui, et peu après, il a réalisé la chose suivante. Toutes ces choses qu'il pensait le rendaient juste devant Dieu, son CV religieux, ne servaient à rien pour être accepté par Dieu. C'était uniquement en croyant en Jésus-Christ mort et ressuscité à sa place. Mais il ne dit pas que ces plus sont devenus des zéros, que tous ces gains sont devenus inutiles. Il va plus loin, il dit que tous ces plus sont devenus des moins. Il dit « je les considérais comme une perte ». Alors, pourquoi une perte ? Il précise « à cause du Christ ». Parce qu'en croyant qu'il pouvait être juste devant Dieu sur la base de son obéissance à la loi, ça l'empêchait de se confier en Jésus-Christ. Son CV religieux était une barrière à l'acceptation d'un autre CV, celui de Jésus. Ce n'est pas que ces choses sont mauvaises en soi, bien sûr. Au contraire, il en a de très bonnes. La circoncision était un très bon symbole. Le zèle était très positif. Le fait de faire partie du peuple élu était super. Ces choses ne sont pas mauvaises. Mais elles ne deviennent mauvaises que si elles considèrent à une place qui n'est pas la leur. Si elles deviennent un moyen par lequel ils pensent atteindre Dieu. C'est en cela que c'était une perte pour Paul. Pour nous, ce qu'on a comme CV religieux, ce qu'on a reçu, ce qu'on a fait pour Dieu, ce sont de bonnes choses pour la plupart. Ce que vous avez peut-être dit dans votre tête ou ce que j'avais cité. Ce sont des bonnes choses pour la plupart. Bien sûr qu'elles sont bonnes. Mais est-ce que dans nos vies, ces choses restent à leur juste place? Ou est-ce qu'on les considère comme un gain pour paraître un peu plus juste devant Dieu? Est-ce qu'on est prêt à considérer ces choses comme une perte à cause du Christ? Verset 8. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Il reprend la même idée en rajoutant quelques éléments. Ce qu'il a considéré comme une perte à sa conversion, il le considère toujours comme une perte, même 30 ans plus tard. Ce n'est pas une chose valable seulement pour la conversion, mais aussi pour le reste de la vie chrétienne. Il dit « je considère tout comme une perte ». Il s'agit non seulement des choses dont il parle au verset 5 et 6, mais toutes choses, tout. La raison qu'il motive est l'excellence de la connaissance du Christ Jésus. Excellent par rapport à toutes les autres choses. Et le fait de connaître Christ est tellement excellent, tellement merveilleux qu'en comparaison, les autres choses ne valent rien. Comme les étoiles qu'on ne voit plus quand le soleil arrive. Tellement la luminosité du soleil est forte. Dans la suite du verset 8, il dit « à cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. » Il développe son idée et va même jusqu'à dire qu'il considère tout comme des ordures. Le mot « ordure » est très fort. Ça peut même être traduit par de la boue ou même des excréments. Paul exprime un dégoût prononcé vis-à-vis de toutes ces choses. Mais pourquoi est-il si extrême? Il le dit « j'ai accepté de tout perdre afin de gagner Christ. » S'il avait mis sa confiance dans ce qu'il fait en pensant que ça le rendrait juste devant Dieu, ça l'aurait empêché d'être juste devant Dieu. Une telle pensée dégoûte Paul. Soit il met sa confiance dans ce qu'il a fait et considère sa justice personnelle comme un gain, et dans ce cas, il perdrait Christ, soit il considère ces choses comme des ordures et il gagne Christ. C'est l'un ou l'autre, pas les deux. Que choisissons-nous ? Gagner Christ ou mettre notre confiance dans notre CV religieux ? Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Il exprime encore une raison pour laquelle il considère tout comme une perte, comme des ordures. Il oppose deux justices. La justice qui vient de l'homme, qui est acquise par l'obéissance à la loi, et la justice qui vient de Dieu, qui est acquise par la foi en Christ. Quand Jésus est mort sur la croix, il a pris toute la condamnation que nous méritions à notre place. Il a pris notre CV religieux, qui était bien insuffisant, et a été condamné à notre place pour ce CV religieux. Et en échange, quand nous mettons notre confiance en Jésus, quand nous croyons en lui, il nous donne son CV parfait. Et c'est ce CV parfait qu'on peut présenter devant Dieu pour nous approcher de Dieu. Une justice acquise par notre CV religieux, acquise par l'obéissance à la loi, et le CV de Christ qui est acquis par la foi. Il choisit la justice qui vient de Dieu, et c'est pour ça qu'il considère toutes ses fiertés personnelles comme une perte. il choisit comme CV le CV de Jésus. Et c'est pour ça qu'il considère son CV religieux comme une perte pour s'approcher de Dieu. Qu'en est-il de nous ? Peut-être que c'est des choses que pour certains d'entre vous, pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelque chose que vous découvrez. Et dans ce cas-là, ça va avoir le coup de réfléchir à tout ce qui s'est passé à la croix et choisir de prendre son CV religieux, de le jeter comme base pour nous approcher de Christ, de Dieu, et prendre le CV de Jésus. Et pour nous qui sommes chrétiens, nous savons que nous sommes sauvés par la foi seule, que ce ne sont pas nos bonnes actions qui nous rendent justes devant Dieu. On aura envie de dire, mais on le sait par cœur. Depuis notre conversion, ce n'est pas la peine de répéter. C'est intéressant que Paul dise au verset 1, merci, « Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses et pour vous, c'est une sécurité. » Il écrit à des chrétiens et il leur répète cela pour leur sécurité. C'était mieux pour eux qu'il le leur rappelle et c'est mieux pour nous aussi. C'est sûrement parce qu'il y a un danger d'oubli, même pour les chrétiens. Personnellement, je le vois malheureusement trop souvent dans ma vie. Des choses que j'oublie, ce que je savais, que je perds de vue, ou alors des choses que je sais et que je ne vis plus. Peut-être que ça vous arrive aussi. Des fois aussi, il y a une différence énorme entre ce qu'on croit et ce qu'on vit. Est-ce qu'on vit vraiment cette réalité au jour le jour? Ou est-ce qu'on réserve ça juste pour le salut seulement à la fin des temps? Comme si, pour être sauvé, on avait décidé de prendre le CV de Jésus et de le montrer à Dieu, et maintenant on est sauvé, et après on le met de côté, et pour notre vie quotidienne, on prend notre CV religieux et on fait dépendre notre accès à Dieu en fonction de la performance de notre CV spirituel. Des fois, nous vivons comme si nous devions encore accomplir de bonnes œuvres pour être acceptés par Dieu, chaque jour, en plus du sacrifice de Jésus. Nous savons que ce n'est pas notre CV qui fait qu'on peut être accepté par Dieu, mais celui de Christ. Mais nous vivons parfois encore comme si on devait présenter à Dieu notre CV religieux. Je remarque ça dans ma vie, surtout quand il y a des choses de mon CV religieux que je ne fais plus ou moins. Je vous donne un exemple. Quand je chute régulièrement dans un péché, que ça nous décourage, est-ce que des fois on n'a pas l'impression de ne plus trop mériter à parler à Dieu, de ne plus mériter de s'approcher de Dieu, et on n'ose plus trop prier? Peut-être que ça vous arrive aussi. On a l'impression de ne plus le mériter. On a raison dans un sens qu'on ne le mérite pas, mais si on a cette impression à ce moment-là seulement, ça veut dire qu'on pense qu'avant de commettre ce péché, on méritait d'une certaine façon de s'approcher de Dieu. Par notre obéissance, par notre victoire sur le péché ou autre. On pensait qu'avant, avec notre bon CV religieux de la journée, on méritait d'être accepté par Dieu. Mais c'est faux. Dans les deux cas, on ne mérite pas. Quand on arrive à vaincre tel péché ou non, quand on a un CV religieux qu'on estime meilleur ou moins bon, dans les deux cas, on ne mérite pas de s'approcher de Dieu parce qu'on est loin de la perfection. Mais on peut s'approcher de Dieu parce qu'on est au bénéfice de la grâce de Dieu. Parce que Jésus nous a donné son CV. C'est merveilleux. Et on peut s'approcher de Dieu avec le CV de Jésus. De toute façon, que je sois très obéissant ou non, je ne peux pas m'approcher de Dieu. Je ne peux m'approcher de Dieu que parce que Jésus est mort à ma place, qu'il a subi à ma place la colère que je méritais à cause de mes fautes. Si donc je pêche, je peux confesser mon péché et accepter la grâce de Dieu et revenir à Dieu. Un autre exemple. Si je n'ai pas trop lu ma Bible ces derniers temps, pas trop prié pendant un certain temps, je peux avoir l'impression que je ne mérite plus de m'approcher de Dieu. Du coup, je le fais moins, je le fais pas, dans tous les cas. Mais j'oublie que je ne peux m'approcher de Dieu seulement grâce au sacrifice de Jésus, même quand j'arrive à lire ma Bible ou prier. Et vous pouvez sans problème imaginer d'autres exemples de la vie quotidienne où on peut vivre ça. Le problème, c'est qu'on base notre relation avec Dieu non plus sur le fait que Christ est mort à notre place, mais aussi sur nos performances personnelles, nos mérites, nos propres ressources. Nous vivons comme si la mort et la résurrection de Jésus n'étaient pas suffisantes pour qu'on puisse nous tenir devant Dieu ce jour-là. On ajoute quelque chose à la grâce de Dieu. De l'autre côté, quand on arrive à obéir, qu'on arrive à servir Dieu puissamment, qu'on arrive à participer à des réunions, qu'on arrive à prier, à lire la Bible, à servir, etc., on risque d'avoir l'impression d'avoir un accès un peu plus privilégié à Dieu qu'avant, un accès qu'on mérite particulièrement, alors qu'on est toujours au bénéfice de la grâce de Dieu sans mérite. Est-ce que je sens que j'ai une plus grande justice devant Dieu quand je fais telle ou telle chose, quand j'obéis? Est-ce que je sens que Dieu peut m'accepter encore plus quand je fais telle ou telle chose? Nous devons nous rappeler que nous avons déjà la justice maximum. On est à 100% avec le CV de Jésus. Dieu nous a donné, quand on a la foi en Jésus, la justice parfaite de Jésus. Et il l'a considéré comme il avait vécu, comme s'il avait vécu notre vie imparfaite. On a eu un échange de CV. On ne peut rien ajouter au CV parfait de Jésus. C'est déjà celui qu'on a devant Dieu. C'est un si beau cadeau pour nous. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit rien faire, comme on est accepté sur la base du CV de Jésus? On n'a plus rien à faire pour être juste devant Dieu, mais justement, pleinement conscient de la grâce de Dieu, ça va être le contraire. Je vais avoir une motivation encore plus grande pour servir Dieu. Tite chapitre 2, verset 14 nous dit « Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. » Il parle de Jésus. « Et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. » Conscient de la grâce de Dieu, on ne va pas rien faire. Mais on va être un peuple zélé pour les œuvres bonnes. Je vais être tellement motivé pour lui obéir, pour le servir en réponse à la grâce, ça va dépasser ce que j'aurais pu faire juste sur la base d'être accepté par Dieu. Parce que j'ai un amour et une reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait à la croix. Pour être accepté par Dieu, sur quel CV s'appuyer? Pas sur un CV religieux, mais sur le CV de Christ. J'aime bien ce que dit un prédicateur, Tim Keller. Il dit que ce n'est pas que l'évangile, ce que Jésus a fait à la croix, ce n'est pas l'ABC de la vie chrétienne, mais c'est le A à Z de la vie chrétienne. Ce n'est pas juste pour ceux qui ne sont pas chrétiens ou juste pour les jeunes chrétiens, c'est pour tout chrétien. C'est une vérité non seulement à connaître au début, mais aussi à vivre tous les jours en pratique. Et on peut grandir en profondeur dans cette connaissance de ce que Jésus a fait à la croix et dans notre vécu de cela. Alors comment peut-on se rappeler de tout cela et ne pas tomber dans ce travers? On peut réfléchir régulièrement dans différentes situations. Est-ce que ma réaction dans telle ou telle situation montre que j'ai l'impression que mon accès à Dieu varie en fonction de mes performances spirituelles? Et dans ce cas-là, confessons-le à Dieu et rappelons-nous la vérité. On est accepté juste sur la base du CV de Jésus. Une bonne habitude qui m'aide est de prendre régulièrement du temps quand je prie, et notamment quand je prie avec d'autres, pour remercier Dieu pour le sacrifice de Jésus, le remercier qu'on a accès auprès de lui, non par nos mérites, mais par sa grâce, quel que soit ce qu'on fait. Tout en priant, je le remercie, mais en même temps, ça me le rappelle. On peut mémoriser des versets de la Bible qui nous rappellent de cela et les relire, les méditer régulièrement. On peut les avoir sur son téléphone ou dans sa poche. Si vous voulez des versets, je pourrais vous en donner aussi. Et nous pouvons aussi nous le rappeler les uns aux autres dans les différentes situations de la vie. Et aussi chanter des chants riches en vérité liés à ce que Jésus a fait à la croix et à notre vécu de cela. Et vous avez sûrement plein d'autres bonnes idées pour ça. Pour être accepté par Dieu, sur quel CV s'appuyer? On a vu aujourd'hui le risque de se confier dans notre CV religieux, dans ce qu'on a reçu, ce que l'on est et ce que l'on a fait pour être juste devant Dieu. On a vu qu'il ne faut pas s'appuyer sur notre CV religieux, mais qu'il faut nous appuyer sur le CV de Christ, de Jésus, qu'on a reçu par la foi. Ne nous appuyons pas sur ce que nous avons, sur ce que nous faisons pour Dieu, mais appuyons-nous sur ce que Christ a fait. Gardons la mort et la résurrection de Jésus au cœur de nos vies chrétiennes. À présent, quel est chacun le CV spirituel que nous donnons à Dieu chaque jour? Est-ce que c'est notre CV religieux ou le CV de Jésus? Acceptons-nous de renoncer à notre CV religieux comme base pour nous approcher de Jésus et pour n'avoir que le CV de Jésus à présenter pour être accepté par Dieu. Je vous invite à finir en priant avec moi.